Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Baba Metzia, page 60, Daf Samer. Bonne écoute et bon limoud.
On n'a pas besoin de dire qu'il sera interdit de mélanger du blé fraîchement moissonné avec du vieux blé qui a déjà séché. Parce que celui-ci est prêt à être moulu, il donne plus de farine. Donc le fait de mélanger du blé fraîchement moissonné va causer une perte à l'acheteur. Be'emet amru, en vérité, les chachamim ont dit, be'yayin hitiru, concernant le vin, les chachamim ont permis, les arev kashé berach, de mélanger du vin sec avec du vin doux. Mipnei shehu mashbicho, parce que le vin sec améliore le vin doux. En effet, le vin doux, dont le goût est meilleur, ne se conserve pas longtemps, alors que le vin sec se conserve mieux. Donc le fait de mélanger un peu de vin sec dans du vin doux l'améliore. Mais le contraire sera interdit. En marvim shimre yain b'yain, il est interdit de mélanger la lie de vin dans du vin. Aval notenlo et shmarav, mais le vendeur peut donner à l'acheteur la lie de son vin. La Gemara expliquera. Mishenitarev maim b'yeno, celui qui a eu de l'eau mêlée à son vin, loim keren ubechanud, il n'a pas le droit de le vendre dans un magasin où le vin est vendu petit à petit pour la consommation immédiate, et laim kenodio, à moins qu'il ne le fasse savoir à l'acheteur. Velo le tagar, il n'aura pas le droit de vendre ce vin à un commerçant, à falpiche odio, même s'il lui fait savoir que de l'eau s'est mélangée avec son vin. Chez Eno et l'Aleramotbo, parce que ce commerçant ne l'achète que pour tromper les acheteurs. Makom shenehagu la'atil maim biyaim, dans un endroit où l'habitude est de mettre de l'eau dans du vin, yatilou, ils auront le droit de mettre de l'eau dans le vin. Hatagar notel mi chamisha granot, le commerçant a le droit d'acheter des céréales dans 5 granges, donc provenant de 5 endroits, venoten le toch megura achat, et mettre le tout dans un silo. Ou bien, mi chamisha gitot, le commerçant a le droit d'acheter du vin dans 5 pressoirs, donc dans 5 endroits différents, venoten le toch pitom echad, et verser le tout dans une citerne. Et cela parce que tout le monde sait que le commerçant s'approvisionne dans plusieurs endroits. Ou bilvad shelo yehe mitkaven le'arev, mais à la condition qu'il n'ait pas l'intention de faire des mélanges. C'est-à-dire qu'il ne fasse pas courir le bruit qu'il s'est approvisionné dans un endroit réputé pour sa bonne marchandise. Parce que dans ce cas, ses acheteurs croiraient que toute sa marchandise provient de cet endroit, alors qu'il y a mélangé aussi de la marchandise provenant d'ailleurs. Nous avons vu dans la Mishnah qu'un particulier qui vend les fruits provenant de son champ ou les céréales provenant de son champ n'aura pas le droit d'y mêler des céréales ou des fruits provenant d'ailleurs. Alors, la Gemara dit là-dessus, Tanou Rabanan, nos Chachamim ont enseigné dans une Braïta. En Tsarich Lomar, il n'est pas besoin de dire que lorsque Chadashot Me'arba, le blé fraîchement moissonné est vendu au prix de 4 mesures pour un Sela, Veyeshanot Mishalosh, alors que le vieux blé, c'est-à-dire celui qui a séché, est vendu au prix de 3 mesures pour un sela, den mervim, qu'il est interdit de mélanger du blé fraîchement moissonné avec du vieux blé. Parce qu'en ce faisant, le vendeur trompe l'acheteur. Et là, filou chadashot meshalosh, mais même dans une situation où le blé fraîchement moissonné se vend au prix de 3 mesures pour un sela, veshanot merba, alors que le vieux blé est vendu au prix de 4 mesures pour un sela, en mervim, il sera quand même interdit de mélanger du blé fraîchement moissonné avec du vieux blé. Et cela parce que la raison pour laquelle le blé fraîchement moissonné vaut plus cher, ce n'est pas parce qu'il est meilleur que le vieux blé, mais plutôt, mipnei she'adam rotzeh le'ashnan, parce qu'il s'agit d'une période où le blé fraîchement moissonné est beaucoup demandé, parce que les gens veulent acheter ce blé pour le faire vieillir. Et c'est pour cela que son prix a augmenté en fonction de la demande. Par conséquent donc, il sera interdit de mélanger du blé fraîchement moissonné avec du vieux blé, parce que ce dernier est le meilleur. Finalement donc, en ce faisant, le vendeur tromperait l'acheteur. Cependant, lorsque l'acheteur est intéressé par du blé fraîchement moissonné, le vendeur aura le droit d'y mélanger du vieux blé, parce que celui-ci, finalement, est le meilleur. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Be'emet amru » En vérité, les Chachamim ont dit que « Be'yayin hitiru la'arev kashé berach » Concernant le vin, les Chachamim ont permis de mélanger du vin sec avec du vin doux. Mipnei shehumash bicho, parce que ce vin sec améliore le vin doux. Amar Rabbi Elazar, Adamra, cela veut dire, puisque la Mishnah s'est efforcée de nous enseigner la raison pour laquelle les Chachamim ont permis de mélanger du vin sec avec du vin doux, ce qui paraît être une raison indiscutable. Cela nous montre que Kol Behemet Amrou, partout où les Chachamim s'expriment de cette manière en disant, en vérité, les Chachamim ont dit, Halachai, cela veut nous dire que c'est ainsi la halacha. Amar Rav Nachman ou Ben Hagitot Shanu. Cette halacha n'a été enseignée dans la Mishnah et donc n'est appliquée que entre les pressoirs, c'est-à-dire à la période des vendanges où les raisins sont pressés. À ce moment, quand différentes sortes de vins sont mélangées, par exemple du vin sec et du vin doux, ils fermentent ensemble, ce qui améliore la qualité finale du vin. Mais après que le vin a terminé sa fermentation, le fait de mélanger différentes sortes de vins, leur qualité n'est pas améliorée, parce qu'à ce moment, chaque vin garde son goût, donc, par conséquent, les mélanges abîment les vins. Alors la Gemara conclut, « Vehaïdna est aujourd'hui des cas mervés chez l'Oben Agitot, que les gens ont pris l'habitude de mélanger les vins, même pas entre les pressoirs, c'est-à-dire après que la période des vendanges et de la fermentation est passée, c'est parce que « Amar Papa Deade Vekamachle » les gens le savent, et nous estimons que la personne qui achète le vin a renoncé d'office à toute réclamation. Ravacha Bered Ravi Kamar lui donne une autre réponse en disant Hamane, quel est l'auteur de cet halakha qui permet de mélanger les vins même après que leur fermentation soit terminée? Rabbi Achaï, c'est Rabbi Acha de Tanya, parce qu'il a été enseigné dans une braïta. Rabbi Acha Matir Bedavar Anitam. Rabbi Acha permet de faire des mélanges lorsque celui-ci peut être ressenti au goût. Ainsi, l'acheteur peut goûter la marchandise ou ce vin avant de l'acheter et décider si ce mélange lui convient. Dans ce cas, il n'y a pas de fraude lorsque le vendeur fait des mélanges. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Ve'en me'arvim shimre yain be'yain » Il est interdit de mélanger la lie de vin avec le vin « aval noten lo tchmarav » mais le vendeur pourra donner à l'acheteur la lie du vin qu'il vient de lui vendre. La Gemara demande « Ve'ha amar drecha en me'arvim klal » Voici qu'au début, la Mishnah nous enseigne qu'il est interdit de mélanger la lie de vin avec le vin. Comment se fait-il donc qu'il aurait le droit de lui donner la lie de son vin et de l'inclure dans la quantité de vin qu'il lui a vendu? Et si tu veux me dire que ce que la Mishnah veut nous dire quand elle dit il lui donne la lie de son vin des kamodale en lui faisant savoir qu'il a mélangé la lie dans ce vin, c'est impossible parce que Hamid et Katanesefa, puisque par la suite la Mishnah nous enseigne dans le cas où de l'eau s'est mélangée dans du vin. Loim kerenu bechanut elaim ken modio. Il lui sera interdit de le vendre dans un magasin, à moins de faire savoir à l'acheteur que de l'eau s'est mélangée dans du vin. Velo le tagar, mais il sera interdit de le vendre à un commerçant, afalpish modio, même en lui faisant savoir que de l'eau s'est mélangée dans ce vin. Nous voyons donc que la Mishnah le précise clairement quand il faut faire savoir à l'acheteur qu'un mélange a eu lieu. Miklal deresha, nous pouvons déduire que dans le premier cas de la Mishnah, où nous parlons de la lie, il sera permis de mélanger la lie avec le vin dont elle provient, afalgav de l'omodale, même sans le faire savoir à l'acheteur. La Gemara répond, Amar Aviuda, Hachik Amar, c'est cela que la Mishnah a voulu dire. En me'arvin shmarim shel emesh beshel yom, il est interdit de mélanger de la lie provenant du vin qui a été vendu hier, avec le vin vendu aujourd'hui, qui en général provient d'un autre tonneau. Et il sera interdit de mélanger la lie provenant du vin vendu aujourd'hui dans le tonneau de vin qui a été ouvert hier. Aval noten lo etchmarav, mais il sera permis de donner à l'acheteur, donc de mélanger dans son vin, la lie provenant de ce même vin. Cependant, comme l'explique le Meiri, il ne s'agit pas de la lie qui s'est déjà solidifiée, parce que celle-ci ne peut pas être considérée comme du vin, mais plutôt il s'agit du vin trouble se trouvant juste au-dessus de la lie. Celui-ci pourra être mélangé avec le vin de ce même tonneau. Tanya Namiachi, il a été enseigné ainsi aussi dans une braïta. Rabbi Uda Omer, Hashofe Yayin Lechavero, celui qui verse doucement du vin dans un autre tonneau pour le vendre à son prochain. Il le verse doucement pour que ne pas que la lie solide se mélange avec le vin. Hareze lo yarev shelemesh beshelyom, il lui sera interdit de mélanger la lie provenant du vin vendu hier avec le vin vendu aujourd'hui. Veloche liom bechelemesh, il sera interdit de mélanger la lie provenant du vin vendu aujourd'hui avec celui qui a été vendu hier. Aval me'arev shelemesh bechelemesh, mais il sera permis de mélanger la lie provenant du vin vendu hier avec le vin d'hier. Vecheliom bechelyom, il sera aussi permis de mélanger la lie provenant du vin vendu aujourd'hui avec le vin d'aujourd'hui. C'est-à-dire, comme nous l'avons expliqué précédemment, il sera permis de mélanger le vin trouble se trouvant au-dessus de la lie avec le même vin, mais non pas avec un autre vin. Et cela parce que la lie ou le vin trouble provenant d'un tonneau abîme le vin d'un autre tonneau si on l'y mélange. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Mish mitarev maim beyeno » Celui qui a eu de l'eau qui s'est mélangée avec son vin, il n'aura pas le droit de le vendre dans un magasin petit à petit pour être consommé immédiatement, et laim ken modio, à moins de faire savoir à l'acheteur que celui-ci a été coupé avec du vin. Alors, la Gemara raconte une histoire avec Rava, Aitule Khamra Michanuta. Ses esclaves lui ont amené du vin d'un magasin. Mazge, il l'a coupé avec de l'eau, Tame, puis il l'a goûté, Lohava Basim, il ne l'a pas trouvé bon. Chadre Lechanuta, il l'a renvoyé au magasin pour être vendu ainsi. Amar le Abaye, Abaye lui a posé la question suivante. Veha Nantnan, voici que nous avons enseigné dans notre Mishnah. Velo la Tagar Afalpi Sheodio, il est interdit de vendre ce vin à un commerçant, même en lui faisant savoir que celui-ci a été coupé avec de l'eau. Par conséquent, puisque le propriétaire de ce magasin était un commerçant, il est donc interdit de lui donner du vin coupé avec de l'eau à vendre. Amar le, Rava lui a répondu. Mazgadidi, Mida Yadia, la manière dont mon vin est coupé est reconnaissable. C'est-à-dire, mon vin a été coupé avec tellement d'eau, comme le souligne le Tosfot. Rava avait l'habitude de couper son vin de manière à ce que celui-ci soit composé d'un quart de vin et de trois quarts d'eau. Il est donc impossible de le faire passer pour du vin. Et c'est pour cela que je me suis permis de le vendre au magasin. Vechitema detafe umehaile umasbinle. Et si tu veux dire qu'il y a lieu de craindre que le vendeur ajoute du vin à ce mélange et le vende ainsi pour tromper les acheteurs, c'est impossible parce que Imken, si tu veux le craindre, en la davarsof, c'est une chose qui n'a pas de fin. En d'autres termes, il devrait être interdit de vendre même de l'eau à un commerçant de peur qu'il le mélange avec du vin. Forcément, nous devons dire que nous craignons uniquement que le commerçant vende ce vin tel quel, mais nous ne craignons pas qu'il transforme ce mélange pour tromper les acheteurs. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Makom shenahagu le'atil ma'im be'yayin yatilu » Dans un endroit où les gens ont l'habitude de mélanger de l'eau avec du vin, il sera permis de le faire. Alors la Gemara dit là-dessus « Tana il a été enseigné dans une braïta »« Le mertza, le shlish ou le rbia » Il sera permis de mélanger jusqu'à la moitié du volume du vin en eau, ou le tiers ou le quart, selon les habitudes de l'endroit en question. « Amarav ou benagitot shanu » Nous n'enseignons cela, donc cette loi ne s'applique que entre les pressoirs, c'est-à-dire à la période des vendanges et de la fermentation du vin. Parce que, comme l'explique le Magid Mishneh dans Perek Yutret Milchot Mechira Halachavav, l'eau fermentera avec le vin, ainsi tout le mélange deviendra du vin. Mais après que la fermentation est terminée, il est interdit de mélanger de l'eau avec du vin, parce que cela abîmerait le vin, et ce serait donc tromper l'acheteur en lui vendant du vin coupé. Nouvelle Mishnah, Rabbi Yehuda Omer. L'épicier n'a pas le droit de partager des graines grillées et des noix aux petits-enfants, parce qu'en ce faisant, il les attire chez lui au détriment des autres commerçants, alors que les chachamim le permettent. La Gemara expliquera. Le commerçant n'a pas le droit de baisser les prix, parce que cela porte préjudice aux autres commerçants. Au contraire, il devrait être béni pour cela. L'oyavour est agrissime. Il est interdit de trier les fèves concassées pour enlever les déchets, pour les vendre plus cher. D'ivrei Abba Shaoul, ce sont les paroles de Abba Shaoul. Parce qu'en ce faisant, ce commerçant arrivera à vendre ses fèves concassées à un prix plus élevé que son prix réel, parce que sa marchandise paraît belle. Les chachamim matirim et les chachamim le permettent. Umodim, cependant les chachamim sont d'accord chez Loyavor Mealpi Megura, il sera interdit aux commerçants de trier le dessus d'une caisse ou d'un étalage chez Eno Ela Kigonev Etaïm, parce que ce tri est un trompe-l'œil. En effet, il attire ainsi les clients, leur faisant croire qu'il s'agit d'une marchandise qui est triée et propre, mais en fait, ce n'est que le dessus qui est propre. En Mefarkesim Lo Eta Adam, il est interdit d'embellir un homme destiné à être vendu comme esclave, velo et abema, et ni les animaux, velo et akelim, et ni les ustensiles. Alors la Gemara reprend le début de la Mishnah, où nous avons vu une discussion entre Rabbi Yehuda et les Chachamim, à savoir s'il est permis de partager des friandises à des enfants pour les attirer, pour qu'ils achètent chez lui ou non. Selon Rabbi Yehuda, c'était interdit, selon les Chachamim, c'est permis. La Gemara demande, Matamayu de Rabbanan, quelle est la raison de Chachamim? Pourquoi est-ce qu'ils permettent de partager des friandises aux enfants? La Gemara répond, Dehamarle, parce que cet épicier qui partage les friandises peut dire à l'autre, qui se plaint, Anam afligna emgoze, moi je partage des noix pour attirer les enfants, Veat palikshiske, toi aussi tu peux faire la même chose, et tu peux leur partager donc des prunes pour les attirer. Il ne s'agit donc pas d'une concurrence déloyale. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit Veloy frot et achar, il est interdit de baisser les prix, Vachachamim omrim, Zachor Latov, il devrait être béni pour cela. La Gemara demande Maitama de Rabbanan, pourquoi est-ce que le Chachamim bénisse celui qui baisse les prix? Nous tournons la page à Daf Samech Amud Bet.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Dans la page Adaf Samech Amud Bet. L'Agma répond, Mishum de Kamarvach le Tara, parce qu'en baissant les prix, ce commerçant favorise la baisse générale des prix. En effet, ceux qui ont emmagasiné des céréales et des fruits pour les vendre plus cher verront que les prix ont baissé et seront forcés de les vendre moins cher. L'Agmara reprend le passage de la Mishnah qui dit, Veloyavor et Agrissim d'Ivrei Abba Shaul, il est interdit de trier les fèves concassées pour les vendre plus cher. Parce qu'en rendant sa marchandise attirante, il la vend plus cher que son prix réel, parce que le prix qu'il ajoute sur le prix de la marchandise est plus haut que le coût du tri. Les chachamim matirim et les chachamim le permettent. La Gemara demande, man chachamim, qui c'est ces chachamim qui le permettent? La Gemara répond, Rabbi Acha de Tanya, parce qu'il a été enseigné dans une braïta, Rabbi Acha matir bedavar hanire. Rabbi Acha permet de faire une transformation dans une marchandise si celle-ci peut se reconnaître. Alors là aussi, le client a la possibilité d'évaluer le coût du tri, s'il est prêt à payer plus cher pour avoir de la belle marchandise, pour ne pas avoir à le faire lui-même, ce n'est pas considéré comme une fraude. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « El mefar kesim lo et adam, etc. velo et kelim. » Il est interdit d'embellir un homme destiné à être vendu comme esclave, ni un animal, ni des ustensiles. La Gemara dit là-dessus « Tanu Rabbanan, nos chachamim ont enseigné dans une braïta. » El meshar vetin et abema. Il est interdit de faire dresser les poils d'un animal pour qu'il paraisse plus gros. La Gemara expliquera comment. Il est interdit d'insuffler de l'air dans les intestins d'un animal pour qu'il paraisse plus gros. Il est interdit de tremper de la viande dans de l'eau pour que celle-ci paraisse plus grasse. En effet, le fait de tremper la viande dans de l'eau la fait blanchir. Ainsi, cette viande paraît plus grasse. La Gemara demande, Maï el Mesharvetin, que veut dire il est interdit de faire dresser les poils d'un animal pour qu'il paraisse plus gros? C'est-à-dire, comment on le fait? La Gemara répond, Hachatar Gimou, ici en Bavel, les Chachamim ont expliqué Maya de Chizra, c'est en faisant boire à l'animal de l'eau de son, ce qui fait gonfler ses intestins, et cela fait aussi dresser ses poils. Zehiri Amar Ravkana, Mezakafta, c'est en étriant l'animal. C'est-à-dire, il est interdit de détrier un animal destiné à la vente pour dresser ses poils et qu'il paraisse ainsi plus gros. Shmuel Shara le Mirma Toumé le Sarbela. Shmuel a permis au vendeur d'habits d'ajouter des franges en soie à un habit pour l'embellir. Rav Yehuda Shara le Kiskousé Karmé. Rav Yehuda a permis de repasser des tapisseries avec de l'amidon pour les embellir. Rabba Shara le Midak Tsardé. Rabba a permis de raffiner des habits de jute en frappant le tissu avec des espèces de massues de bois pour que les fils paraissent plus fins. Rava Shara le Tsilume Gire. Rava a permis de peindre des dessins sur des flèches. Rav Papa Bar Shmuel Shara le Tsilume Dikoulé. Rav Papa Bar Shmuel a permis aux commerçants de peindre des dessins sur des paniers d'osier. La Gemara demande, pourtant nous avons enseigné dans notre Mishnah, El Mefar Kesin, Lo et Adam, Velo et Abema, Velo et Akelim. Il est interdit d'embellir un homme destiné à être vendu en tant qu'esclave, ni un animal, ni des ustensiles. Donc comment se fait-il qu'ils ont permis d'embellir des ustensiles destinés à être vendus? La Gemara répond, La Kacher, ce n'est pas une contradiction. Habechadete, les Chachamim ont permis plus haut d'embellir des ustensiles nouveaux. Parce que les embellir ne trompent pas l'acheteur, c'est juste pour attirer le client. Habeatike, alors que la Mishnah parle d'embellir des vieux ustensiles. Autrement dit, la Mishnah interdit d'embellir des ustensiles usagés pour qu'ils paraissent neufs. Aussi, comme nous l'avons dit, il est interdit de faire dresser les poils sur un animal pour qu'ils paraissent plus gros. Il ne s'agit pas donc d'une action pour attirer le client, mais pour le tromper. Alors, la question se pose, Birkus de Adam Maihi, en quoi est-il interdit d'embellir un homme destiné à être vendu en tant qu'esclave. La Gemara répond « Kiha de'ahu avda saba » La Mishnah parle d'un cas similaire au cas de cet esclave âgé, d'Azal Tzav'e l'Ereshé ou le Dikné, qui est allé teindre les cheveux de sa tête et de sa barbe pour qu'il paraisse jeune. « Ata l'ekame de Rava » Il s'est présenté devant Rava, « Amarle Zivnan » Il lui a dit « Achète-moi ». Amarle, Rava lui a répondu, je n'ai pas besoin d'esclaves, parce que la Mishnah dit dans Pirkei Avot Perek Aleph, Yehiu Aniim Benebetra, que les pauvres soient les habitués de ta maison. Autrement dit, je préfère nourrir les pauvres juifs et qu'ils me servent à la place. Atal et Kamed Rav Papa Bar Shmuel. Alors cet esclave s'est présenté devant Rav Papa Bar Shmuel. Zavne, et il l'a acheté. Yomachad, un jour, Amarle, Ashkeyan Maya. Rav Papa Bar Shmuel a dit à cet esclave, « Amène-moi de l'eau à boire. » Et cet esclave n'avait pas envie de le faire. « Azal chavre l'ereche ou le dikne » Il est parti laver les cheveux de sa tête et de sa barbe pour qu'ils reviennent à leur couleur d'origine. « Amarle » Puis cet esclave a dit à Rav Papa Bar Shmuel, « Chazé d'ana kashish me'avour »« Regarde comme je suis plus vieux que ton père. Tu devrais donc avoir honte de me demander de t'amener de l'eau. » « Kare anafshe » Il a dit sur lui-même le pasouk suivant pour dire que ce pasouk s'est accompli chez lui. Il s'agit du pasouk dans Mishlei Yudalef qui dit « Tzadik mitzara nechlatz » Le juste s'est dérobé d'un malheur. Cela fait allusion à Rava qui n'est pas tombé dans le piège d'acheter cet esclave. « Vayavo acher tartav » et quelqu'un d'autre l'a remplacé. En d'autres termes, est tombé dans le piège. Cela faisait allusion à lui-même qui a acheté cet esclave. Nous noterons que dans Mishlei, le pasouk dit « Vayavo racha tartav » et c'est le mécréant qui l'a remplacé. Cependant, Rav Papa Bar Shmuel n'a pas voulu se traiter de mécréant, et c'est pour cela qu'il a modifié le pasouk. Hadran ala chazav, nous avons fini le quatrième perek de Baba Metzia. Nous commençons l'étude du cinquième perek, qui parle essentiellement de l'interdiction de prêter avec intérêt. La Torah mentionne cette interdiction à deux reprises, une fois dans Vaikra Café et une autre fois dans Dvarim Kaf Gimel. Pour désigner le prêt avec intérêt, la Torah emploie deux termes. Le terme de Nesher, qui veut dire morsure, et le terme de Tarbit, qui veut dire augmentation. Le terme de Nesher, morsure, illustre l'intérêt qui augmente petit à petit. Son effet est comme celui de la morsure, qui n'est pas ressenti immédiatement, mais beaucoup plus tard. Le terme de Ribit, qui veut dire augmentation, illustre la personne qui s'enrichit au détriment du débiteur. Comme nous le verrons dans la Gemara, ces deux termes ne désignent qu'une seule et même interdiction, celle de prêter avec intérêt, donc prêter de l'argent, des fruits ou tout autre objet pour recevoir plus que ce qu'il a prêté. Cette interdiction, comme nous le verrons, concerne soit le créancier, soit le débiteur. Les Chachamim, comme nous le verrons, sont allés beaucoup plus loin et ont interdit toute transaction où l'un des deux parties accorde plus à l'autre, en raison du délai accordé par le dernier. Et cela, même si à l'origine, dans cette transaction, il n'y avait pas de prêt, il est quand même interdit d'ajouter un surplus à cause du délai accordé par l'autre personne. Ainsi, dans certains cas, l'acheteur n'aura pas le droit de payer plus lorsqu'il achète à crédit. Aussi, le vendeur n'aura pas le droit de s'engager à fournir plus de marchandises à l'acheteur parce qu'il a payé sa marchandise à l'avance, alors que le vendeur ne la possédait pas, parce que nous considérons le paiement à l'avance dans le cas où nous ne pouvons pas considérer que la transaction a été conclue à ce moment comme un prêt. Lorsque le vendeur fournit plus de marchandises en échange de ce prêt, nous considérons qu'il a donné un intérêt à l'acheteur. La Mishnah, qui commence ce perek, va employer le terme de Nesher pour l'intérêt interdit minatora et le terme de Tarbit, qui veut dire augmentation, pour désigner l'intérêt interdit, midérabanan. Alors la Mishnah dit, Ezeu Nesher, quel intérêt est interdit, parce que celui-ci est considéré comme morsure, ve Ezeu Tarbit, et quel est l'intérêt interdit, parce que celui-ci est considéré comme augmentation. Alors la Mishnah répond, Ezeu Nesher, qu'est-ce qui est considéré comme intérêt interdit, minatora, parce que celui-ci est considéré comme une morsure, c'est le cas de Hamalve Sela Behe Dinarim. Celui qui prête la somme d'un Sela qui vaut 4 dinars pour recevoir en échange 5 dinars. Ou bien, c'est Ataim Chitim Beshalosh, celui qui prête la quantité de 2 Sela de blé pour en recevoir 3. Assur Mipneshi Unosher, cela est interdit parce qu'il mord, c'est-à-dire il exige de recevoir plus que ce qu'il n'a donné. De Eze Utarbit, et quel est l'intérêt considéré comme l'augmentation de la fortune qui n'est interdit que Mide Rabanan, c'est Hamarbe Beperot, celui qui s'enrichit par le commerce de fruits ou de céréales. Alors la Mishnah demande, Ketzad, comment cela se présente, c'est-à-dire dans quel cas est-il interdit de s'enrichir par le commerce des fruits ou de céréales? Alors, la Mishnah répond, c'est dans le cas où la kar hemenu chitim bedinar zahavakur, une personne a conclu un marché avec un grossiste de lui fournir du blé à un dinar d'or pour chaque mesure d'un cours, vechen achar, et c'était le cours du marché. L'acheteur a payé sa marchandise à l'avance, mais comme la Gemara l'expliquera, cette transaction est permise. Et cela, même si le vendeur ne possède pas la marchandise, parce qu'avec l'argent qu'il a reçu, il peut l'obtenir n'importe où. Nous considérons donc le marché conclu comme si l'acheteur avait pris possession du blé. Nous considérons donc que lorsque le prix du blé augmente, que c'est le blé appartenant à l'acheteur qui a augmenté. Amdou chitin be shloshim dinarim, puis le prix du blé a augmenté et il vaut maintenant 30 dinars d'argent pour la mesure d'un cours, à la place d'un dinar en or, soit 25 dinars d'argent au moment où le marché a été conclu. Cependant, comme nous l'avons expliqué, le vendeur a toujours le droit de fournir la marchandise au prix qui a été convenu. Amarlo tenlichitai. Maintenant, si l'acheteur dit au vendeur, donne-moi le blé que j'ai acheté, shani rotzele mochan, parce que je veux le vendre velikar baim yain, pour acheter avec le produit de la vente du vin. Amarlo, le vendeur dit à l'acheteur, je n'ai pas de blé. Je compte le blé que j'étais vendu au prix d'aujourd'hui, qui est de 30 dinars, la mesure d'un cours. Et en échange, je m'engage à te fournir du vin au prix d'aujourd'hui. Alors que le vendeur ne possède pas de vin. Alors cette dernière transaction est interdite, parce que nous craignons que le prix du vin augmente. Alors puisque l'acheteur n'a rien donné au vendeur pour pouvoir acheter du vin au prix d'aujourd'hui, finalement, il se trouve qu'il s'est engagé à lui fournir du vin au prix d'aujourd'hui, même après que celui-ci ait augmenté, en échange du fait que l'acheteur a renoncé à réclamer son blé qui lui était dû. Nous considérons cette situation comme un prêt, en échange duquel le vendeur donne de la marchandise plus chère, ce qui est interdit, Midrabanan. La Gemara expliquera plus loin la différence entre les deux cas de la Mishnah. Nous avons fini ici le cours de Bava Metzia Daf Samech. Dans le shiur de Bava Metzia Daf Samech Aleph, nous commençons Daf Samech Amud Bet à la Gemara, juste après la Mishnah. Nous avons expliqué précédemment que la Torah emploie le terme de Nesher, qui veut dire morsure, et le terme de Tarbit, qui veut dire augmentation, pour désigner l'intérêt. Puis nous avons vu que la Mishnah a expliqué le terme de Nesher, morsure, en choisissant des exemples d'intérêt interdit minatora. C'est le cas de quelqu'un qui prête avec intérêt, donc par exemple une somme d'argent pour en recevoir plus. Ensuite, la Mishnah explique le terme de tarbit en choisissant des cas d'intérêt interdit midrabanan. En effet, la Mishnah a choisi le cas d'une transaction interdite par les Chachamim, parce qu'ils ont considéré l'argent payé à l'avance par l'acheteur comme étant un prêt, étant donné que la marchandise n'existait pas. Il est donc impossible de considérer que l'acheteur a acquis la marchandise. Par conséquent, il est donc interdit au vendeur de s'engager à fournir la marchandise en toutes circonstances, même si son prix a augmenté. Parce que l'acheteur recevrait plus de marchandises que ce qu'il a payé. Nous considérons cela comme un surplus, donc comme un intérêt, en échange du prêt que l'acheteur a accordé au vendeur. Alors l'Agmara constate, « Mi deshavik leribit d'oraita » puisque, pour expliquer le terme de « ribit », augmentation. La Mishnah a délaissé les cas où ce serait interdit minatora, c'est-à-dire dans le cas où il y aurait un véritable prêt, parce que, comme nous le voyons dans Mishlei Kafret, l'intérêt n'est interdit minatora que lorsqu'il y a un prêt. Le pasouk en effet dit « Marbe hono benesher uvetarbit » celui qui augmente sa fortune par la morsure et l'augmentation. Comme l'explique le Pnei Yehoshua, la seule manière qu'une personne peut être sûre d'augmenter sa fortune par l'augmentation, c'est lorsqu'il prête avec intérêt. Mais lorsqu'il s'agit d'une transaction qui dépend de l'augmentation du prix de la marchandise, personne ne peut être sûr que sa fortune augmentera, parce qu'il se peut au contraire que le prix de cette marchandise baisse. Donc, puisque la Mishnah, lorsqu'elle explique le terme de ribit, délaisse les cas où celui-ci serait interdit minatora avec Kamefaresh de Rabbanan, et elle l'explique en choisissant le cas où cet intérêt est interdit, Mederabanan, dans le cas d'une transaction comme nous l'avons expliqué, Miklal de Oraita, nous pouvons en conclure que Minatora, de Nesher Vetarbit, Hadamiltai, que le terme de Nesher, morsure, et le terme de Tarbit, augmentation, ne font qu'un. En d'autres termes, la Torah ne parle que d'une seule et même interdiction de prêter avec intérêt. Il n'y a pas deux interdictions. La Gemara demande, Vehakra Ektive. Pourtant, les psukim font clairement la différence. En effet, dans Vaikra Kafé, le pasuk dit Et kaspecha lotiten lo benesher, uve marbit lotiten ochlecha. Ton argent, tu ne lui prêteras pas avec une morsure, donc avec intérêt, et avec l'augmentation, tu ne prêteras pas ta nourriture. Nous voyons donc bien que Nesher Kesef, la Torah emploie le terme de morsure pour le prêt d'argent, veribit ochel, et le terme d'augmentation pour le prêt de nourriture. Apparemment donc, il devrait s'agir de deux interdictions distinctes. Forcément, nous devons dire que le terme de Nesher morsure désigne l'interdiction de prendre au débiteur plus qu'il lui a été prêté, et le terme de ribit désigne l'interdiction d'augmenter sa fortune même sans rien prendre du débiteur. Alors la Gemara demande, Vitisbera, peut-on concevoir une chose pareille, Deika Nesher Belotarbit, qu'il existe une situation où le créancier a mordu, c'est-à-dire qu'il a pris du débiteur plus qu'il lui a prêté, sans que sa fortune l'augmente, Vetarbit Belonesher, ou bien qu'il existe une situation où la fortune du créancier augmente sans que celui-ci ne prenne rien du débiteur, pour que l'on puisse dire ici que la Torah parle de deux interdictions distinctes, parce que Nesher Belotarbit Heridami, comment pourrait se présenter le cas où le créancier a mordu, c'est-à-dire qu'il a pris du débiteur plus qu'il lui a prêté sans que sa fortune augmente? S'il s'agit d'un cas où le créancier lui a prêté 100 pièces de cuivre pour en recevoir 120, dans une situation où Meikara Kaime Meabedanka, où au départ, au moment du prêt, ces 100 proutot valaient un sixième de dinar d'argent, c'est-à-dire une ma'a d'argent, ou le basof, et par la suite, c'est-à-dire au moment du remboursement du prêt, Kaime Meabesrim Bedanka, le prix du cuivre a baissé, maintenant ces 120 pièces de cuivre valent un sixième de dinar d'argent, c'est-à-dire une ma'a d'argent. C'est-à-dire, comme nous l'avons expliqué au début du quatrième pérec, par rapport au cuivre, c'est le métal argent qui est considéré comme la valeur fixe, et donc nous considérons que c'est le cuivre qui a été dévalué. Il est vrai que, comme le précise le Tosfot, une ma'a d'argent vaut en général 32 proutot, et non pas 100 proutot comme l'Agmara le dit. Cependant, comme l'expliquent le Ritva et le Ramban, la Gemara a simplement choisi ce cas à titre d'exemple, sans rentrer dans les détails, parce que finalement ici, nous ne sommes pas intéressés par la valeur exacte des pièces. En tout cas donc, dans ce cas où le créancier a prêté 100 pièces de cuivre pour 120 pièces de cuivre, dans une situation où au moment du remboursement du prêt, la valeur du cuivre a baissé, nous pourrions dire que Nesherika, il y a ici une morsure des Kanachitle. Parce que finalement, le créancier mord le débiteur de Kachakilmine, Mide, de Loyahiv, parce qu'il lui prend les 20 pièces de cuivre supplémentaires qu'il ne lui a pas prêtées. Cependant, Vetarbit Leka, il n'y a pas ici d'augmentation de l'Etlerafra, parce que finalement, le créancier n'a rien gagné de Danka Ousfe, parce qu'il lui a prêté la valeur d'une ma'a d'argent, Vedanka Kachakilmine, et il reçoit en échange la valeur d'une ma'a d'argent. Ainsi, ce cas serait interdit à cause de l'interdiction de Nesher morsure, bien que la fortune du créancier n'a pas augmenté. Al-Gamar réfute, c'est impossible, parce que sauf, finalement, Ibatar Meikara Azlab, si pour considérer qu'il y a eu une morsure, donc un intérêt, nous allons fixer le montant de la dette par rapport au moment du prêt. Par conséquent, nous dirons que pour le prêt de 100 pièces de cuivre, le créancier ne mérite que 100 pièces de cuivre. Ainsi, lorsque ce dernier réclame 20 pièces de cuivre supplémentaires, il y a ici un intérêt. Si c'est ainsi, Hare Nesher Behare Tarbit, il y a eu ici une morsure, parce que le créancier a reçu plus qu'il ne méritait, et aussi sa fortune a augmenté. Parce que s'il est convenu qu'il ne reçoive que 100 pièces de cuivre, même si la valeur du cuivre baisse, nous pouvons considérer que la valeur de ces 100 pièces de cuivre aurait baissé, même si elles étaient restées chez le créancier. Finalement, lorsqu'il obtient 20 pièces de cuivre supplémentaires, il se retrouve avec une fortune plus grande que ce qu'il devait avoir s'il était resté uniquement avec ses 100 pièces de cuivre. I batar basof azlat. Et si, pour dire que la valeur du créancier n'a pas augmenté, nous fixons le montant de la dette par rapport au moment du paiement, Autrement dit, nous considérons que le créancier n'a prêté que la valeur d'une ma'a d'argent, et c'est ce qu'il a reçu en retour. Si c'est ainsi, l'onesherika velotarbitika, nous ne pouvons pas considérer qu'il y a eu ici une morsure, parce que lorsque le débiteur a rendu 120 pièces de cuivre, il n'a pas rendu plus que la valeur d'une ma'a d'argent qu'il a emprunté, et pour remplir son engagement de payer un intérêt, il aurait dû ajouter 20% supplémentaire. Et nous ne pourrons pas non plus considérer qu'il y a eu ici augmentation de la fortune, parce que le créancier n'a été remboursé que de la valeur d'une ma'a d'argent, comme ce qu'il avait prêté. Veux-tu, et encore, tarbit belo nesher hechidami. Comment se présente le cas où nous pourrions considérer qu'il y a eu augmentation de la fortune du créancier sans qu'il y ait eu ici une morsure, c'est-à-dire sans qu'il n'ait pris plus que ce qu'il ne mérite. Id osif mea bemea, s'il s'agit d'un cas où le créancier a prêté 100 pièces de cuivre pour recevoir en échange 100 pièces de cuivre, donc comme ce qu'il avait prêté, dans une situation où meikara kaime mea bedanka, où ces 100 pièces de cuivre valaient une ma'a d'argent, ou le basof mea behumcha, puis à la fin, c'est-à-dire au moment du remboursement, la valeur du cuivre a augmenté, de manière à ce que ces 100 pièces de cuivre valent maintenant un cinquième d'un dinar d'argent. Ainsi donc, nous pourrions considérer que le créancier a reçu ce qu'il méritait, et pas plus, mais cependant, sa fortune a augmenté, puisqu'il a maintenant la valeur d'un cinquième de dinar. Cette situation serait interdite par le terme de ribit, augmentation de la fortune. Alors ma réponse est impossible, parce que ibatar meikara azlat, si pour considérer qu'il n'y a pas eu de morsure, et que le créancier n'a pas reçu plus qu'il ne méritait, nous allons fixer le montant de la dette par rapport au moment du prêt. Ainsi, nous dirons que pour le prêt de 100 pièces de cuivre, le créancier mérite en retour 100 pièces de cuivre, même si leur valeur augmente. Si c'est ainsi, l'onesherika velotarbitika. Il n'y a pas ici de morsure, puisque le créancier n'a pas reçu plus qu'il n'a prêté, plus que ses 100 pièces de cuivre. Et nous ne pourrons pas considérer non plus qu'il y a eu ici augmentation de la fortune. Puisque, comme nous l'avons expliqué précédemment, nous pouvons considérer que ces 100 pièces de cuivre étaient restées chez le créancier, leur valeur aurait tout de même augmenté. Finalement donc, la fortune du créancier n'a pas augmenté à cause de ce prêt. Et batar basof azlat, si pour considérer qu'il y a eu ici augmentation de la fortune, nous allons fixer le montant de la dette par rapport à la fin, c'est-à-dire par rapport au moment du remboursement. Ainsi, nous considérerons que ce débiteur qui s'est engagé à rembourser 100 pièces de cuivre en toutes circonstances, même si leur valeur a augmenté, ce sera interdit parce que cela entraîne une augmentation de la fortune du créancier. Et en fait, le débiteur ne devrait rendre que la valeur d'une ma'a d'argent qu'il a reçue. Si c'est ainsi, hare nesher vehare tarbit. Nous pouvons considérer qu'il y a eu ici une morsure, puisque finalement, le créancier a exigé un engagement de recevoir 100 pièces de cuivre en retour, même si la valeur de celle-ci augmente, pour recevoir finalement plus qu'une ma'a d'argent qu'il a prêté. Et nous pourrons considérer aussi qu'il y a eu ici une augmentation de la fortune du créancier, puisque finalement, le débiteur lui a remboursé la valeur d'un cinquième de dinar d'argent, alors qu'il n'avait prêté qu'un sixième de dinar d'argent, donc une ma'a d'argent. Et là, Amar Rava, c'est pour cela que Rava dit en conclusion, « Ya tamotse l'onesher belotarbit, tu ne peux pas trouver de situation où il y a eu morsure, donc que le créancier reçoit plus qu'il ne mérite sans augmentation de sa fortune, velotarbit belonesher, et on ne peut pas trouver une situation où la fortune du créancier a augmenté sans morsure, c'est-à-dire sans qu'il n'ait pris plus qu'il ne mérite. » Ces deux interdictions sont donc indissociables, parce que même dans le cas où la valeur de l'objet qui a été prêté a changé, soit augmenté, soit a baissé de valeur, pour déterminer s'il y a eu ou non morsure et augmentation de fortune, cela dépendra si le montant de la dette est fixé au moment du prêt ou au moment du remboursement, comme nous l'avons expliqué. D'ailleurs, comme le précise les Rishonim, nous verrons par la suite d'Af Samer Bet Amud Aleph qu'il est interdit de prêter avec intérêt Minatora uniquement lorsque le débiteur s'engage à payer cet intérêt au moment du prêt. D'autre part, nous verrons aussi là-bas et à la fin du Perek que de prêter une quantité de fruits pour recevoir la même quantité de fruits en retour n'est interdit que Miderabanan. De là, nous voyons que c'est au moment du prêt que le montant de la dette est fixé. Par conséquent, celui qui prête 100 pièces de cuivre pour recevoir 120 pièces de cuivre, Il s'agit d'un intérêt interdit minatora, même si la valeur du cuivre a baissé. Par contre, celui qui prête 100 pièces de cuivre pour recevoir la même somme, donc 100 pièces de cuivre, minatora, le créancier, pour en recevoir ces 100 pièces de cuivre, même si leur valeur a augmenté. Donc finalement, comme nous l'avons dit, Rabba dit en conclusion que le terme de Necher, morsure et Tarbit, augmentation, ne parle que d'une seule et même interdiction. Velochilkan akatuv, et le pasouk n'a séparé ces interdictions, et l'a lavor à la Vishnelabim, que pour dire que celui qui prête avec intérêt transgresse deux commandements négatifs, comme nous le verrons par la suite. Tanu Rabbanan, nos chachamim ont enseigné dans une braïta. Lorsque le pasouk dit dans Vaikra Kafé, et Kaspecha lotiten lo benesher, et ton argent, tu ne le prêteras pas avec morsure, c'est-à-dire avec intérêt, ou bemarbit lotiten ochlecha, et tu ne prêteras pas ta nourriture avec augmentation, c'est-à-dire avec intérêt. En liela nesher bekesef veribit beochel, nous n'apprenons de ce pasouk que lorsque le créancier prête avec intérêt, il transgresse l'interdiction de morsure lorsqu'il s'agit d'un prêt d'argent et d'augmentation lorsqu'il s'agit d'un prêt de nourriture. En d'autres termes, nous ne voyons d'ici que le créancier ne transgresse qu'une seule interdiction lorsqu'il prête avec intérêt soit de l'argent, soit de la nourriture. Necher be'ochel minayim, d'où sait-on qu'il transgresse aussi l'interdiction de morsure lorsqu'il prête de la nourriture avec intérêt? En la braïta répond, Talmud Lomar, c'est pour cela que le pasouk dit dans Dvarim Kaf Gimel, concernant le débiteur. Le pasouk dit, ne te laisse pas mordre par ton frère en acceptant un prêt avec intérêt, qu'il s'agisse d'une morsure sur de l'argent, c'est-à-dire donc un prêt d'argent avec intérêt, ou bien Necher ochel, une morsure sur de la nourriture, en acceptant un prêt de nourriture avec intérêt. Nous voyons donc dans ce pasouk que le terme de morsure, necher, s'applique aussi pour un prêt de nourriture. Alors la Braïta comprend à ce stade que puisque nous voyons concernant le débiteur une interdiction de morsure concernant un prêt de nourriture, ce terme s'appliquera aussi concernant l'interdiction du créancier. Celui-ci donc aura deux interdictions concernant le prêt de nourriture, celui de necher et celui de ribit. Alors la Braïta demande « Ribit bekesef minayin » d'où sait-on qu'il y a aussi une interdiction d'augmentation concernant un prêt d'argent? La Braïta répond « Talmud Lomar » c'est pour cela que le pasouk dit « Necher kesef » il s'agit du pasouk dans Dvarim Kav Gimel concernant le débiteur qui interdit au débiteur d'accepter un prêt d'argent avec morsure, donc avec intérêt. Nous passons à Dav Samech Alef Amud Alef.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.